France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la DZ Mafia à Marseille, organisation toute puissante du narcotrafic français. Des hommes et des femmes, assassinés sauvagement à coups de couteau ou par balle. Ils sont 49, qu'une guerre de territoire sans merci entre deux clans de narcotrafiquants marseillais a tué. Le clan Yoda et la DZ Mafia. Seul le second ressortira victorieux de cette guerre sale. Sorti de terre dans les quartiers nord de Marseille, il y a seulement 4 ans, la DZ Mafia, c'est désormais l'ultra-puissance du trafic de drogue à la française. Avec dans son sillage des mares de sang laissées sur les trottoirs des cités et des centres-villes, cartels de gangsters endurcis. Si la DZ s'est fondée sur l'industrie ô combien lucrative du trafic de drogue, elle est aussi à l'origine de bien d'autres méfaits. La DZ, ce n'est pas que du shit et de la coke qu'on vend en bas des tours. C'est aussi le racket, l'extorsion, les enlèvements, le proxénétisme et une véritable industrie du meurtre. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste du grand banditisme et auteur, entre autres, d'une histoire du milieu à la manufacture de livres. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Siam Spencer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Février 2023, dans les rues animées de Phuket, la fête bat son plein. La cité thaïlandaise est réputée depuis plusieurs années pour accueillir une partie de la narcocratie francophone en manque de bringues. Alors on y fait le tour des bars et des boîtes de nuit, l'esprit léger, loin des forces de l'ordre françaises et des mandats d'arrêt européens. On s'y retrouve pour se détendre, se délester de sa vie dans l'illégalité et parfois, on s'y croise sans le vouloir. Comme dans cette discothèque, où au milieu de la nuit, le hasard rassemble Abdelatif Laribi, 33 ans, l'un des principaux patrons de la DZ Mafia, et Félix Bengui, 33 ans, chef du clan Yoda, un autre cartel marseillais. Ils sont tous deux en vacances avec leurs acolytes, leurs hommes de confiance. Et ils se connaissent bien, puisqu'ils se partagent les points de deal d'une cité particulièrement lucrative à 9700 km de là, la cité de la Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille. Pourtant, et rapidement, le ton monte entre les chefs de clan. Il y a d'abord les cris, les insultes, puis une bagarre générale. Les nouvelles vont vite, et le lendemain, à Marseille, des membres des deux clans sont visés par des tirs. En réalité, ça fait un moment que la tension monte entre ces deux factions à la Paternelle. Construite sur une colline, le quartier abrite deux points de deal. Chaque cartel s'est approprié un espace. En haut, la DZ, en bas, les Yoda. On y travaille main dans la main. Et en cas de descente de police, ceux d'en bas préviennent ceux d'en haut et vice-versa. Mais n'imaginez pas une cité où s'amoncellent les tours de 15 étages, non. Le quartier de la Paternelle, c'est plutôt le cliché d'une cité dortoir. Comme l'explique le journaliste Florent Bonnefoy dans le podcast de son journal La Provence.
Ça ressemble pas du tout à l'image d'Épinal de la cité stup marseillaise. Alors la cité de la Paternelle, c'est pas du tout un grand ensemble comme on peut le voir à la Castellane par exemple ou à Campagne-l'Évêque. On a d'immenses barres d'immeubles qui sont hyper impressionnantes. C'est quelque chose qui est, on est sur du R+2 avec des immeubles qui sont colorés, des toits terrasses. Ça a l'air de rien comme ça. Quand on y entre, c'est pas du tout intimidant. C'est aussi un peu ce qui fait son succès. C'est une cité qui est très facile d'accès. Et donc, c'est parce qu'elle est facile d'accès que cette cité, elle est réputée très rapidement pour être la cité des non-marseillais. Dans le sens où les clients qui viennent s'approvisionner à Marseille en stupéfiants vont naturellement vers la Paternelle parce que c'est pas une cité qui est très intimidante. Et elle est très bien desservie. Quand vous venez des Alpes, du Vaucluse ou de la périphérie de Marseille, vous y arrivez presque naturellement.
C'est donc sur cette petite colline, à la sortie de l'autoroute A7, qu'on se presse au pied de résidences aux couleurs pastel où vivent 700 habitants. Oui, on y va sans crainte à la pater, comme on l'appelle. On y passe acheter 10 balles de cannabis, l'air de rien et en un rien de temps. À tel point que ce spot prend un essor sans précédent durant le premier confinement de mars 2020. À cette époque, la pater est le seul endroit où l'on peut encore acheter de la drogue, à Marseille. Pendant des semaines, on y réalise jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Ce qui cristallise les tensions entre les deux clans, évidemment. Et les rumeurs vont bon train. Il paraît que des guetteurs, ceux du bas chez les Yoda, bossent avec la police. Paraît qu'ils n'alertent pas tout le temps quand elle passe, la police, et que la DZ se fait choper de plus en plus souvent à cause de ça. Les petites frictions sont courantes pendant 3 ans, mais finissent toujours par redescendre. Mais en février 2023, quelques jours avant la rencontre des caïds marseillais en Thaïlande, un membre des Yoda échappe de peu à une tentative d'assassinat. Les principaux suspects? Les voisins, bien sûr. Autrement dit, la DZ Mafia. La guerre de territoire, celle qu'on règle à coups de fusil d'assaut, de Glock et de Kalachnikov, commence. À chaque meurtre ou tentative d'assassinat, l'autre clan répond œil pour œil. Rapidement, l'épidémie de meurtre dépasse largement la paternelle. En quelques mois, ils sont 35 à périr. Les blessés sont nombreux, sans compter les témoins souvent traumatisés par des scènes de violence inouïes. Puis, le 8 mars 2024, la guerre connaît un coup d'arrêt. Extrait du journal de France Inter.
Le fruit d'une coopération policière franco-marocaine, l'un des plus grands caïds marseillais, a donc été arrêté à Casablanca. Il s'appelle Félix Bangui, dit le chat. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Félix Bangui est le chef présumé du clan Yoda, l'une des bandes criminelles les plus puissantes chez les narcotrafiquants marseillais.
Oui, cet homme né à Alès, dans le Gard, il y a 33 ans, était installé depuis plusieurs années à Marseille. C'est là qu'il a monté ce puissant et dangereux groupe de narcotrafiquants. Yoda, Yoda comme Maître Yoda, le personnage de Star Wars, représenté sur les murs des points de deal contrôlés par cette bande. Une organisation très hiérarchisée dont la majorité des membres n'ont en réalité jamais vu le chef présumé, Félix Bangui, alias le chat, habitué des allers-retours entre le Maroc et Marseille dans le cadre du trafic de stupéfiants, mais en bataille avec son principal rival, le clan DZ Mafia, une véritable guerre même, avec ses morts, 49 personnes tuées l'année dernière, dont 4 victimes collatérales et ses 123 blessés.
C'est le coup de grâce pour le clan Yoda, déjà affaibli depuis plusieurs mois. La DZ Mafia, elle, sort victorieuse sur le terrain, mais aussi en notoriété. À Marseille, plus personne n'ignore son nom. Remontons le temps, avant cette année 2023 mortifère. Cap sur 2008. En octobre de cette année-là, le film Kamsa de Karim Dridi sort en salle. Un film touchant qui retrace le parcours d'un jeune gitan de 11 ans. Aux côtés de l'acteur principal, un adolescent joue le rôle de Rachitik, un délinquant marseillais à l'influence néfaste. Ce jeune qui joue les seconds rôles, c'est Abdelatif Mehdi Laribi, futur patron de la DZ Mafia. À l'époque, il n'est encore qu'un pauvre gamin de la cité Bassin, c'est un quartier du 15e arrondissement de Marseille, un quartier délaissé, loin de tout, comme le raconte cet habitant aux médias bruts, un média en ligne.
Je vis ici à Bassin, voilà, on n'a pas la vie facile tous les jours.
Alors, tu peux nous décrire à quoi il ressemble le quartier?
Le quartier est tout petit, hein. Il y a 6 ou 8 bâtiments, si je ne me trompe pas, de 4 étages. C'est vraiment un petit quartier, il y a 312 habitants, et encore, il y a des appartements, ils sont vides. Hein. Voilà quoi, hein. Au milieu de la zone industrielle, il n'y a que des usines autour, les pompiers, tout ça. On est au milieu de nulle part, quoi.
Rien à voir avec la paternelle. Ici, tous les codes de la cité sont remplis. Cafards, insalubrité, murs ternes, bétons et terrains vagues. C'est le quotidien du jeune Mehdi, que tout le monde appelle Tic, depuis son rôle de Rachid Tic dans le film. C'est aussi le quotidien de son frère, Lamine Laribi, que tout le monde surnomme, sans surprise, Tac. Mehdi ne semble pas doué pour grand-chose. Bon, genre bon à rien, quoi. À part peut-être cette promesse de carrière dans le cinéma. Habitué de l'école buissonnière, il est exclu de son collège, puis de son BEP mécanique. Il abandonne toute forme de scolarité et se lance dans la délinquance et les larcins à plein temps. Son casier judiciaire se remplit en un temps record. Vol, conduite sans permis et bien sûr, trafic de stupéfiants. Un parcours qu'il raconte à la barre quelques années plus tard.
Je fracturais toutes les voitures sur le chemin de l'école pour voler des autoradios que je vendais au père de mon collègue. Je suis pas enceint, je peux être méchant. Même si un jour j'ai pleuré, après avoir appris que j'avais volé un poste à un gars qui avait pas d'argent. Mais je suis pas un meurtrier. Je serais pas capable de tuer quelqu'un pour l'argent. Je sais même pas si j'en serais capable si on tuait quelqu'un de ma famille.
Si le tribunal peut recueillir la parole de Tic, c'est parce qu'en 2011, Mehdi et son frère Lamine sont arrêtés, accusés d'être les auteurs d'un triple assassinat. Premier coup de projecteur médiatique pour ces deux frères, passer de la petite délinquance à la gestion d'un point de deal et du deal à l'assassinat. Comme une étape obligatoire dans le déroulé de carrière du parfait voyou.
Près de Marseille, tout laisse penser qu'il s'agit encore d'un règlement de compte. Ce matin, trois corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en flammes. Il y a des impacts de balles. Les policiers parlent de la technique dite du barbecue, une technique utilisée dans le milieu du grand banditisme dans les années 2000. Peggy Mauger.
Les trois corps calcinés étaient installés sur la banquette arrière du véhicule. Une Audi A3 retrouvée en feu cette nuit dans ce quartier résidentiel du nord de Marseille. Pendant plusieurs heures, les experts de la police scientifique ont méticuleusement inspecté les lieux et découvert sur la carcasse deux impacts de balles. Les trois victimes ont vraisemblablement été exécutées avant la mise à feu du véhicule.
Pour cette affaire, les frères Laribi font le sale boulot pour un commanditaire. Ils assassinent trois jeunes hommes âgés de 19 à 20 ans, dont la faute et d'avoir voulu récupérer le très lucratif point de deal de la cité dit Mikokoulié. C'est Lamine qui tue. Mehdi, lui, met le feu à la voiture. On appelle ça effectivement le barbecue marseillais. Avec ces assassinats, les frères Laribi se forgent une légende. Mais avec leur incarcération, ils perdent la main sur leur cité, Bassins. Alors, quand Mehdi sort de prison après 10 ans d'incarcération, il lance une opération de reconquête. Vient le temps des premières alliances avec d'autres voyous. Parmi eux, un certain Mamine, dont nous reparlerons. Mais aussi, le trafiquant Gabi, ou encore Madi Zatoun, surnommé la Brute. Ensemble, ils récupèrent, certes, la cité Bassins, mais aussi trois autres, dont la paternelle. C'est le début de l'empire des Z-Mafia tel qu'on le connaît. De nombreux points de vente, plusieurs chefs et des dizaines de lieutenants actifs. Conflit après conflit, meurtre après meurtre, la DZ récupère un à un les points de deal marseillais. Les principaux chefs, excepté Mehdi Laribi, en fuite en Algérie, atterrissent en prison. Mais derrière les barreaux, ils continuent d'assurer la vente de drogue et l'expansion du clan dans toutes ses activités. L'un d'entre eux, Mamine donc, semble avoir une mission encore plus spécifique. Le recrutement et la gestion des shooters, ce nouveau phénomène marseillais qu'explique ce reportage de France 2.
Des fusillades en série, de jour comme de nuit, souvent en pleine rue. Jamais le trafic de drogue n'avait fait autant de victimes à Marseille en une année. Et du nord au sud, presque aucun secteur de la deuxième ville de France n'a été épargné. Laetitia Linon fait partie d'un collectif de familles de victimes. Elle est effarée par cette banalisation de la violence sur fond de narcotrafic.
Il y a encore 2 ans en arrière, ce qu'on entendait, nous, dans notre collectif, c'était tant que ça arrive dans les quartiers nord, que ça entre eux, qui se tue entre eux, nous, on veut rien savoir. Maintenant, la donne a changé. Ils viennent plus tirer sur une cible ou sur un point de deal, maintenant. Ils viennent tirer sur un quartier qui est une petite mère de famille, des gosses qui vont à l'école ou un père de famille qui va aller travailler. Ils regardent plus, ils tirent. Limite à l'aveugle.
Tir à l'aveugle, meurtrier à usage unique, les pratiques de la DZ changent les règles du jeu. Déjà, on ne demande plus à des connaissances ou des voyous du quartier de faire le sale boulot, non. Désormais, on recrute sur les réseaux sociaux, souvent sur un fil de la messagerie cryptée Telegram. Et là, c'est Mamine qui est aux manettes. Mamine, qu'on surnomme Escobar, en référence au célèbre narcotrafiquant colombien, ou Jalisco, un état mexicain ravagé par le trafic. Dans sa cité d'Imicocoulié, il fréquente à l'adolescence les dealers du coin. À sa majorité, il devient braqueur. Les vols à main armée dans lesquels il est impliqué sont particulièrement violents et lui valent son tout premier séjour en détention en 2013. Et puis la violence monte et monte encore d'un sacré cran, lorsqu'en 2020, il passe aux assassinats de sang-froid. Puis en 2021, retour en prison, d'où il ordonne de nombreux meurtres. Il est de toutes les batailles, de toutes les guerres de territoire qui concernent la DZ Mafia. Depuis sa cellule, il tire les ficelles de cette industrie de l'assassinat, qu'on appelle désormais les narcomicides à la marseillaise.
Petit frère n'a qu'à souhait devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine. destine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, petit frère.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la DZ Mafia.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Près d'une supérette marseillaise, deux hommes dans la nuit. Soudain, l'un d'eux sort une arme et ouvre le feu à bout portant. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Les faits remontent à mars dernier. La victime, âgée de 22 ans, n'a pas survécu. Le tireur, lui, prend la fuite dans ce véhicule, conduit par un complice. Autre fusillade quelques jours plus tard. Deux adolescents de 15 et 16 ans sont abattus en pleine rue. Derrière ces assassinats, la police soupçonne un homme, Matteo F., tueur à gages. Il n'a que 18 ans. Et dans une vidéo glaçante qui a circulé sur des messageries cryptées, il plaisante sans remords de ce qu'il appelle des contrats.
Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre.
Matteo, c'est la recrue phare de la guerre des Z Yoda. Un tireur à gages à peine majeur, biberonné aux jeux vidéo, que la violence est loin de révulser, au contraire. Le jeune homme, taille moyenne, peau d'adolescent, cheveux noirs, se met en scène sur ses réseaux sociaux. C'est sa voix d'adolescent qu'on vient d'entendre. « Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais le descendre. » En tout, il aurait tué 6 fois. 6 assassinats en moins d'un mois, entre mars et avril 2023. Les modes opératoires sont souvent les mêmes. Un chauffeur dans une voiture, Matteo qui sort, arme à la main et qui rafale la cible qui lui était désignée. C'est avec cette même méthode qu'il assassine 2 adolescents en avril 2023, sa dernière mission. La Peugeot 308 GTI dont il est passager roule vers le quartier de la Joliette, un coin assez central de Marseille où l'on fait du shopping la journée et la fête sur un rooftop le soir. La voiture s'arrête au niveau d'un kebab connu pour être un lieu de rassemblement de jeunes proches du clan Yoda. Alors, Matteo sort de la voiture à visage découvert, il tire 2 morts. 1 heure plus tard, il est avec sa petite amie auprès de laquelle il se vante d'avoir tué 2 personnes en tirant dans la tête. Matteo est rapidement arrêté, mais dans ce monde de la drogue, personne n'est irremplaçable. D'autres Matteo, tout aussi jeunes, inexpérimentés et insensibles, sont recrutés avec une facilité monstrueuse via Internet. Août 2023, l'été a été chaud à Marseille. Et pas seulement. Dans la cité nîmoise de Pisevin, on profite de la fraîcheur de la nuit pour sortir prendre l'air. Dans l'un des appartements de la tour Wagner, un petit garçon passe une soirée en famille. Il s'appelle Fayed, il a 10 ans. Il joue avec son frère à l'arrière de la voiture de leur oncle. Ils vont acheter du coca. L'oncle est militaire, il revient de mission, alors c'est soir de fête. Bien. Et sur la route, des bruits de tirs résonnent.
Des tirs en rafale. Il est 23h30 hier soir dans le quartier Pissevin de Nîmes. Sur ces vidéos amateurs, un homme lourdement armé vise une voiture avant de prendre la fuite avec ses complices. Une cinquantaine de douilles seront retrouvées sur place.
Dans sa Renault Mégane, l'oncle tente d'échapper aux balles qui le visent. Installé à l'arrière avec son frère, Fayad est blessé. Il montre à son oncle sa main ensanglantée. Lorsque la voiture arrive sur le parking des urgences à l'hôpital, Fayad, 10 ans, est mort, tué par balle. Mais quel rapport entre un petit garçon de 10 ans dans une cité de Nîmes et la DZN Mafia ? Eh bien tout. La cité Pissevin, à Nîmes, est en conflit avec la ZUP Nord. Et cette ZUP Nord nîmoise, pour gagner la guerre, s'est alliée avec la DZN Mafia. Cette nuit-là, ils sont 8 hommes, cagoulés, habillés en noir, attirés au hasard sur les passants, les bâtiments, les voitures. Parmi eux, des membres de la DZ. Car l'organisation souhaite s'étendre, et pour cela, elle multiplie les alliances et s'implique dans de nombreux conflits territoriaux. Encore une guerre, encore des morts, pour un point de deal.
Jointe par téléphone, la cousine de Fayad exprime sa colère.
On vit dans un quartier où il n'y a que ça. Ça fait plusieurs années que c'est la même histoire, plusieurs années qu'il y a plein d'enfants qui meurent, des pères, des mères, des grands-pères. Tout le monde connaît le problème et personne ne trouve de solution. À chaque fois qu'il y a un mort, c'est là où tout le monde se réveille. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort pour qu'on se réveille.
C'est la fin de l'été et cela fait des mois que les journaux parlent de ces règlements de compte. Le rythme des assassinats s'est accéléré au point qu'on en perd le compte et que dans la presse, on ne sait plus vraiment combien il y a eu de narcomicides. Combien de victimes collatérales également? Combien à Marseille et combien ailleurs? Combien de meurtres? Mais aussi, combien de vies brisées par le trafic et sa violence? Par les menaces et par la peur, les mots narcotrafic et stupéfiants sont partout. Ils deviennent bruit de fond. Quelques jours plus tard, bien qu'il n'y ait aucun rapport avec la DZ, nouveau choc. Une étudiante, Sokaina, meurt d'une balle dans la tête alors qu'elle révise dans sa chambre du troisième étage de la cité Saint-Tis à Marseille. Cette énième victime collatérale émeut la France entière. Sa mort fait l'ouverture du journal de 8h de France Inter.
À Marseille, le degré ultime de la violence.
Ce sont les mots de la procureure de la République après le drame de dimanche soir. Une jeune femme dans sa chambre qui prend un tir de Kalachnikov. Elle était en état de mort cérébrale. Le parquet annonce sa mort ce matin, au petit matin, à l'hôpital. Un point de deal était manifestement ciblé dans son quartier Saint-Tis, au sud-est de la ville. Et c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin est à Marseille ce matin. Il était en direct il y a quelques minutes sur l'antenne de France Bleu Provence.
Écoutez, c'est un drame absolu. C'est évidemment le drame d'une femme qui n'a, à notre connaissance, rien à voir avec les trafics en drogue. Et les trafics en drogue qui, souvent, sont la cause de mort du fait de la drogue, du fait des règlements de compte entre trafiquants, tuent aujourd'hui une jeune femme qui, en effet, subit une violence inacceptable.
Sokaina devient le symbole de cette violence de rue qu'on ne maîtrise plus, celle qui tue de plus en plus d'innocents. Car l'économie de la drogue implique de plus en plus de victimes collatérales, une main-d'œuvre de plus en plus jeune, de plus en plus fragile. Ces clans, la DZN Mafia en premier lieu, vivent et prolifèrent avec leur époque, celle des réseaux sociaux. Avec la multiplication de ces points de vente, la DZN a besoin d'une main-d'œuvre corvéable, pas chère et facilement remplaçable. Alors, elle recrute à tour de bras et de campagnes de pub sur Snapchat. Des jeunes, venus de toute la France, qui, une fois sur place, se retrouvent bien souvent sous-payés, voire pas payés du tout. Comme le raconte ce reportage de France 2.
Des silhouettes sombres, au visage masqué, montent la garde devant les points de deal. On les surnomme les jobbers. De jeunes guetteurs, rabatteurs ou vendeurs qui viennent de plus en plus loin pour prendre part au trafic de drogue à Marseille, malgré les risques. Dans une cité des quartiers nord, nous rencontrons un guetteur au travail. Lui est originaire de Marseille, mais il nous le confirme. Beaucoup de ses collègues ne sont pas d'ici.
Paris, Toulouse, un peu toutes les villes, Avignon, partout. En général, ceux qui viennent de loin, ils ont toujours des problèmes.
Une main-d'œuvre sans repère, entièrement dépendante des trafiquants. C'est sur les réseaux sociaux que se fait le recrutement. Dans des annonces aux allures de films d'action, Les dealers promettent de gros salaires, entre 150 et 400 euros par jour, pour des candidats à l'affût sur le terrain ou encore très vifs d'esprit.
Plus de points de deal, plus de recrues pour la DZ et plus de collaboration avec d'autres organisations criminelles européennes. Toujours plus. Le gang marseillais en tiendrait même des relations étroites avec la mocromafia néerlandaise et la drangheta italienne. Deux réseaux puissants spécialisés dans l'acheminement de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Cette coopération permet à la DZ de se procurer d'importantes quantités de drogue qu'elle distribue sur le territoire français, ajoutant ainsi le statut de grossiste à sa palette de compétences. Et puis il y a le reste de ses activités, l'animation de plusieurs réseaux de prostitution de mineurs, dont certains particulièrement actifs à Toulouse, ou encore l'extorsion et le racket. Le 27 novembre 2023, une commission d'enquête sur le narcotrafic et ses conséquences est lancée par le Sénat. Vu l'impact de ces clans sur la ville, le focus est particulièrement fort sur Marseille. Et mécaniquement, la DZ Mafia revient dans de nombreux témoignages. Au-delà du trafic de drogue, des règlements de comptes et des assassinats, si la DZ inquiète, c'est aussi parce qu'elle s'étend, et pas seulement dans sa région PACA natale. Elle devient une sorte de coopérative mafieuse à coups de guerre et d'alliance. On la retrouve ainsi à Toulouse, à Rennes ou à Angers, mais aussi en Espagne et en Belgique. À l'étroit, dans la cité phocéenne où l'équilibre de la paix est parfois compliqué à maintenir, la DZ s'attaque au reste du monde, à des territoires trop petits pour que plusieurs clans se bagarrent sur les mêmes points de stupéfiants. Et puis elle prospecte dans d'autres secteurs, comme semble le montrer fin août 2024, l'assassinat d'un proche du rappeur marseillais SCH. Explication de Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille.
Les victimes sont des proches, vous le savez tous, de Julien Schwarzer, qui est un rappeur connu sous le pseudonyme de SCH. À l'occasion de cette action commando Tar Taibi décédé, entendu par les services enquêteurs, Julien Schwarzer expliquait faire l'objet de tentatives d'extorsion, sans plus de précision, de clans criminels marseillais depuis environ un an, et qu'il avait toujours refusé de s'acquitter d'un quelconque paiement. Il faisait, au regard de sa résistance, en tout cas c'est ce qu'il nous expliquait, l'objet depuis 4 mois de menaces de mort qu'il avait contraint à changer ses habitudes de vie.
Après les artistes, la DZ Mafia s'essayait aussi aux raquettes de commerçants, comme ce patron d'une discothèque et gérant d'un restaurant qui, pour sauver sa peau, décide carrément de fuir la région marseillaise. Sans compter les coups de pression, les menaces et les meurtres. Jusqu'à franchir un cap. En décembre 2024, un nouveau contrat est lancé. La DZ veut la tête de la directrice de la prison marseillaise des Baumettes. Décidément, le cartel n'a peur de rien. Et justement, ça effraie. Cette image de toute puissance attire les convoitises et les profiteurs, au point que certains se targuent de faire partie de l'organisation pour se faire respecter. C'est le cas du commanditaire d'un assassinat qui fait la une des journaux en 2024, celui d'un chauffeur VTC, tué d'une balle dans la tête par son client, un adolescent de 14 ans en mission. Moyennant 50 000 euros, le jeune assassin est chargé par un narcotrafiquant d'abattre un concurrent de la cité Félix Piat dans le 14e arrondissement de Marseille. Dans la voiture, le jeune sicaire repère sa cible et demande au chauffeur de l'attendre. Nessir Hamdan refuse, il est abattu. Le commanditaire, un détenu de la prison d'Aix-Luynes, se revendique de la DZ Mafia. Mais quelques jours plus tard, cette même DZ publie une vidéo, sorte de communiqué de presse comme le ferait une entreprise ou une institution, pour remettre les pendules à l'heure. Sur la vidéo figure une quinzaine d'hommes vêtus intégralement de noir, cagoule sur la tête. Derrière, on voit une table recouverte d'un drap blanc, floqué d'un DZ Mafia en lettres capitales. Celui qui semble être le leader prend la parole.
Bonjour. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux sur les faits qui sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Tout d'abord, nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts en leur souhaitant force et courage dans leur épreuve. Nous espérons que la vérité sera rétablie. Signé la DZN Mafia.
Ce qui pose problème à la DZN Mafia, c'est qu'on s'approprie leur marque, leur identité, pour des méfaits qui ne sont pas les leurs. Dans cette vidéo, l'homme à la voix modifiée accuse ce détenu d'être mythomane et assure que l'enfant de 14 ans, ainsi que l'utilisation du VTC pour commettre un crime, n'ont rien à voir avec leur méthode. Et il ajoute « Nous avons assez d'hommes, de véhicules et de moyens pour agir si nous y sommes obligés. » Ce type de communication est inédit dans le milieu du narco-banditisme. Encore une nouvelle pratique initiée par la DZN Mafia qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les assassinats s'enchaînent, de nouvelles guerres font rage. Aujourd'hui, c'est le conflit avec les Blacks qui mobilise le 3e arrondissement de Marseille. Demain, ce sera peut-être un autre. En attendant, la DZN Mafia semble s'étendre toujours plus, allant même jusqu'à des revendications politiques. En avril 2025, plusieurs véhicules de surveillants pénitentiaires sont incendiés, des prisons ciblées par des tirs. Des actes signés d'un énigmatique tag DDPF pour Défense des droits des prisonniers français. Le groupe, créé par un prisonnier de la maison d'arrêt du Pontet, près d'Avignon, revendique sur l'application de messagerie cryptée Telegram le droit de meilleures conditions d'incarcération. Mais qui trouve-t-on derrière ce mouvement ? Un membre éminent de la DZN Mafia.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la DZN Mafia à Marseille, dont nous parlons avec notre invité Jérôme Pira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enthousiaste.
Le sujet est un peu triste.
Mais c'est pas un métier, enthousiasme, ça peut le faire. Comme métier, c'est journaliste. Ça n'étonnera personne. Documentariste, écrivain spécialisé dans le grand banditisme, auteur notamment d'une histoire du milieu de 1850 à 2000 aux éditions de La Découverte. Alors commençons par cette histoire de vidéo dont nous parlions à la fin du récit, cette sorte de conférence de presse. Bon, il y a un côté irréel, hein, sa façon de dire « nous, on tue pas comme ça ». Pour vous aussi, l'observateur des crimes organisés, c'est du jamais vu, ça ?
Oui, on dirait les conférences de presse des groupes nationalistes corses, la type FLNC, ils faisaient ça dans le maquis dans le temps. Bon, alors ils ont sans doute été inspirés par ce genre de choses. Bon, ils en ont fait une, hein. Je pense que ils ont compris que c'était pas forcément la meilleure façon de normalement rester discret, hein, pour vivons cachés, pour être heureux. Et donc voilà, donc ils ont revendiqué ça. En plus, c'est quand même un peu gonflé parce qu'on va pas dire qu'ils s'assoient des super pros des exécutions ciblées. Hein. C'est plutôt, vous l'avez raconté, hein, que ça tire un peu dans tous les sens, c'est des gamins, il y a des victimes collatérales, donc je ne sais pas si c'est les mieux placés pour faire des leçons de banditisme. Voilà.
Oui, alors dans le témoignage qu'on entendait, on n'a pas tout à fait compris les paroles, mais on a compris le sens général et surtout l'ambiance. C'était pour vraiment montrer ce côté un peu surréaliste. Je parlais de votre ouvrage régulièrement réactualisé, puisqu'il allait de 1850 à 2000, avec la DZ ou ces nouvelles mafias de la drogue, il y a une nouvelle matière, hein.
C'est un renouvellement constant, le banditisme. Comme disait le professeur Lacassagne, qui était un des pères de la criminologie, à la fin du 19e, il disait « La société a les criminels qu'elle mérite ». Bon, alors ils sont sans doute l'avatar de notre société. On va dire qu'aujourd'hui, de toute façon, le banditisme se résume à 90% au trafic de stupes. Et puis, la DZN Mafia, c'est pas une génération spontanée, parce qu'en fait, on a vu la situation dégénérer depuis quand même quelques années. Les premières Kalachnikovs sont sorties dans les quartiers nord, c'est 2006. D'ailleurs, c'était le type qui avait initié ces barbecues là dont vous parliez tout à l'heure. Farid Berhama, dit le rôtisseur. Qui est le premier.
Le rôtisseur.
Tout un programme. Qui était le premier. Alors, d'ailleurs, ces histoires-là, c'est pas tellement pour faire peur, une petite digression. C'est parce qu'en fait, comme ils emmènent les cadavres dans les voitures, ils les brûlent pour pas qu'il y ait leur ADN. En fait, c'est juste ça. Hein. C'est pas plus ça. Les types sont quand même tués avant. Et donc, on a vu au fur et à mesure des années, notamment, ça s'est accéléré à partir de 2009, les exécutions sommaires se multiplient. En tout cas, les fusillades. Alors, d'abord, une, deux, trois, quatre. Et bon, on est arrivé à cet acmé de 49, là, en 2023. Mais en fait, on voit que c'est monté en gamme. C'est monté en gamme pourquoi ? Parce qu'il faut toujours faire un peu pire que le voisin, ou que l'ennemi, ou que le concurrent. Et donc, là où il y avait un mort, après on a tué deux, puis après trois. Et puis, les gens qui ont aujourd'hui 17-20 ans, ils sont nés avec ces premiers règlements de compte en 2009. Et donc, il y a une habitude de la violence.
C'est quasi culturel, quoi.
C'est que chaque génération s'habitue un peu plus au nombre de morts qui se multiplient, etc. Donc, on arrive maintenant à un truc un peu surréaliste. Et puis, on a un rajeunissement gens, voilà, des troupes, et qui, à mon avis, avec une forme d'inconscience bien installée.
Et si on trace une carte du crime en France, Marseille reste le point numéro un ou pas? Parce que on a l'impression parfois, c'est d'ailleurs dommage pour la ville de Marseille, que c'est la capitale du crime, quoi. Le crime, c'est Marseille. Point.
Moi, ça fait depuis les années 20-30 qui.
Mais avec la French Connection aussi.
Oh, bah, même depuis les années 30, on appelait ça le Chicago à la française, déjà en 1930. Hein, donc, ça a une vieille tradition, un truc qui leur colle à la peau depuis longtemps. Alors, c'est pas complètement usurpé, hein, comme truc. Mais, par exemple, à Paris, bah, le truc de Marseille, c'est que c'est petit quand même. Hein, ça vaut être la deuxième ville de France. C'est, y a, d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, les montagnes. C'est un peu les bourdons dans le tambour. Hein, on tape de tous les côtés. Donc, ce gâteau, il faut se le partager. Il y a une autre ville comme ça, hein, qui est Grenoble, où, dont on parle un peu moins, où les règlements de compte sont quand même très très présents. Paris, c'est moins prégnant, il y a beaucoup de règlements de compte, mais alors c'est tellement disséminé dans les différents départements qui l'entourent, il y a un peu à manger pour tout le monde, donc bon, voilà, donc c'est moins... Mais en revanche, Marseille s'est fait battre récemment par les Antilles françaises, hein, en nombre de règlements de compte par arme à feu rapportés au nombre d'habitants. D'abord, c'était la Corse qui tenait la dragée haute, hein, qui était sur la première marche du podium, ensuite Marseille, et maintenant, on est plutôt du côté de la Guadeloupe et de la Martinique, qui depuis cette année... et voilà, a remporté le championnat mortel.
Il y a toujours des liens quasi naturels entre la pègre corse et la pègre marseillaise.
Alors, oui, forcément, parce que géographiquement, le voyou corse, c'était sa première étape à l'époque vers le sommet parisien. C'était comme les chanteurs, il fallait monter à Paris pour réussir dans le banditisme aussi. Donc, évidemment, et puis vous avez la plus grosse communauté corse exilée de l'île qui se trouve à Marseille. Donc, il y a toujours eu des liens, évidemment, c'était le plus facile pour eux de s'installer là-bas. Alors, aujourd'hui, ils sont encore présents dans le grand banditisme, etc. Mais effectivement, ils se sont un peu écartés de ces garçons très énervés et très agités. Même si on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de liens. Donc les stupes ont envahi l'île de Beauté depuis quelques années, hein, où c'était à peu près préservé. Et on voit aujourd'hui que les stupes, ils proviennent principalement de Marseille, des quartiers nord. Et les Corses ne sont pas forcément des importateurs eux-mêmes, mais plutôt des clients de ces gens-là.
Et quand on parle de trafic de stupes, on est en majorité cannabis ou coke, c'est ou tout?
Alors, maintenant, on est multicartes. Ils ont été pendant très longtemps des vendeurs de hashish, de cannabis, hein, très peu d'herbes, mais bon, voilà, de résine. Mmh. Et puis, bon, ça, c'était 90% du chiffre d'affaires. Et puis, avec l'explosion du trafic de coke, hein, l'offre plutôt a explosé depuis quelques années. Ils se sont mis évidemment à vendre ce produit plus lucratif. Je suis désolé, je suis un peu fatigué.
Vous en prie,
Il y a un marqueur qui est très simple, hein, pour voir l'explosion du trafic de cocaïne. C'est qu'il y a encore quelques années, un kilo de cocaïne, ça valait 36 000 euros au prix de gros, hein, non coupé. Aujourd'hui, ça vaut 17 000 euros. Là, c'est les derniers chiffres du mois, quoi. Donc, on voit bien qu'il faut fourguer toutes ces tonnes de coke qui arrivent. Voilà. Et donc, évidemment, ils se sont mis sur ce marché-là, mais ils sont multicartes. Hein, ils peuvent vous vendre de l'AMD, enfin, des drogues de synthèse, de la beuh, du shit. Quand on allait, j'ai fréquenté pas mal cette cité de la Paternelle, là, et ses points de vente, et cette DZ Mafia qu'on n'appelait pas encore la DZ Mafia ou les Yoda. Et effectivement, vous aviez des tables comme ça, enfin, c'était surréaliste, hein. Vous montiez dans la cité, là, le point de vente qui est en bas, qui était celui de Yoda. Vous avez des tables avec des parasols limite comme dans les bistrots, avec des marques publicitaires, des petits sièges en plastique, des Tupperware, et puis vous aviez un guichet. Alors il y avait même un truc de serpentin avec des barrières métalliques là pour monter au truc. Et je me souviens que les types hurlaient alors pour la schmack, alors c'est la cocaïne, vous attendez 5 minutes, les clients, là on va faire la beuh. Et puis après, quand la beuh, ils avaient épuisé ou le shit, ils disaient au type, vous attendez sur le parking, on ravitaille, faites monter ceux pour la coke, etc. Enfin, donc voilà, non, mais c'est surréaliste, hein, c'était surréaliste. Vous aviez une espèce de feu au milieu, avec des palettes pour qu'on voit de loin le point de vente, avec des flammes de 3 mètres de haut. Enfin bon, c'était Mad Max, le truc. Ouais.
Bientôt, on va payer en carte bleue.
C'est, bah, à mon avis, ils se mettent bientôt au TPE. Ouais.
France Inter. Sensible.
Jérôme Pira, quand on voit tous ces morts à Marseille, on se pose naturellement la question, mais que fait la police? Bon, pas toujours simple.
Hein. Oui, compliqué.
Le travail de la police dans ces quartiers-là?
Bah, c'est compliqué. En plus, comme la police n'a pas non plus des moyens illimités. Et puis le problème, c'est que La police a le travail aussi avec le temps politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand il se passe un truc, on envoie du bleu, comme on dit, hein, pour passer aux 20h. Alors on met des CRS, des trucs visibles qui calment le machin un quart d'heure, deux heures. Puis évidemment, ça recommence derrière. Et en revanche, là où il faudrait mettre des moyens, c'est sur les filières de police judiciaire, etc. Où là, il faut motiver les enquêteurs, etc. Parce qu'en fait, si vous voulez dégommer les têtes... C'est des enquêtes très très longues, qui coûtent très cher, qui sont pas très visibles. Alors le politique, ça l'intéresse pas, parce que le temps qu'on fasse tomber les mecs, il va falloir 2 ans, 3 ans, ça sera le suivant qui en récoltera les lauriers. Donc on privilégie, pour assurer le citoyen, la visibilité de l'uniforme. Bon voilà, donc c'est un peu compliqué de bosser dans ces conditions. Il faudrait effectivement des troupes un peu plus... Alors il y a la police, il y a la gendarmerie, parce qu'on le dit pas assez, mais la gendarmerie, c'est elle qui a récupéré ce qu'on appelle la section de recherche de Marseille, c'est elle qui est en charge de la DZ Mafia, travailler sur ces structures, ces blanchiments d'argent, etc. Et la PJ, un peu moins.
Alors, vous avez rencontré de nombreux voyous dans l'exercice de votre métier. Je rappelle que vous êtes spécialisé dans l'observation du gangstérisme, et non pas dans le gangstérisme.
Je suis un observateur neutre.
Neutre. Donc, vous avez vu Michel Ardouin, par exemple, qui est baptisé le porte-avions. Redouane Faïd, qui est le prisonnier perpétuel, je crois qu'il en a encore pour, pour longtemps, très, très, très longtemps.
Longues années, ouais.
Est-ce que vous avez rencontré des membres de la DZ ?
Oui, j'ai même filmé ces gens avant qu'ils ne deviennent la DZ Mafia, parce que j'avais suivi, alors déjà il y a une petite quinzaine d'années, les affaires de Tic et Tac, et du triple meurtre dont vous avez parlé, au Mico Coulier, etc. Vous avez tué en fait leurs amis d'enfance, hein. Enfin pas Tic, puisqu'il n'a pas été condamné pour ça, mais c'était leurs copains d'enfance qu'ils avaient dessoudés à l'époque, ce qui leur a valu ces longues années de prison. Donc c'est des gens que je suis, voilà, depuis ça fait une petite vingtaine d'années, moi que je vais dans les quartiers nord, hein. Bon, je préfère aller ailleurs. Moi, si ça se déplace aux Antilles, ça va être plus sympa, mais... Non, mais donc, oui, je suis allé, j'avais filmé, notamment, parce qu'ils sont originaires, enfin, en tout cas, Tic et son frère, de la cité Bassins. Alors, dont on dit qu'elle est isolée, mais en fait, c'est la cité jumelle de la Paternelle. Souvent, les trafics, ça marche par paire, hein, dans les quartiers. Donc, ils sont de Bassins, dont ils tenaient, voilà, le gros réseau. Bassins, c'est ce qu'on appelle le plus gros drive et le premier drive de Marseille, c'est-à-dire des quartiers nord. C'est-à-dire, un drive, c'est comme...
Au McDo, quoi.
Comme McDo, voilà. Vous venez avec votre voiture et vous touchez à la portière, comme on dit, hein, voilà, il y a un petit circuit comme ça, vous faites demi-tour au bout, puis vous ressortez. Moi, je les avais filmés avec effectivement l'autorisation de Tic, qui était voilà. Enfin, en tout cas, indirectement cette autorisation. Voilà. Donc oui, je vois, j'ai vu évoluer ces garçons. Je vous dis à la Paternelle, à Bassins, un peu partout.
Et je suis étonné qu'ils vous répondent.
Il y a un truc un peu pervers là-dedans, c'est que. Bon, il y a une question de confiance et d'années, voilà, de présence dans cette tangence criminelle et de contact avec ces gens. Et bon, moi, ça fait 25 ans, 30 ans presque que je fais ça. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait quand même un truc, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, on cachait plutôt le réseau, on cachait le point de deal, etc. On n'avait aucun intérêt à faire de la pub autour. Donc moi, je me souviens, il y a 15 ans, j'essayais de les filmer, mais ils me disaient, bah non, pour Canal, notamment. J'avais fait un truc qui s'appelait Marseille Gangster, et on avait du mal, même en les connaissant, et ils me disaient, j'ai aucun intérêt.
Voilà, demain, ça paraît logique, oui.
Demain, je vais avoir la cavalerie, les hélicos, le GIGN, le préfet qui va nous envoyer, bon, voilà, l'armée. Donc, ils essayaient, et voilà. Et quand j'ai demandé à pouvoir tourner, par exemple, le drive de Bassins, eh ben, étonnamment, bon, je l'ai su après, hein, je vous assure, déontologiquement, je ne l'aurais pas fait, sinon. On m'a dit, mais non, mais en fait, ça nous fait de la pub. Et moi, je me souviens que j'étais arrivé avec mon cadreur, la veille, pour quand même qu'on se présente. Enfin, moi, il me connaissait, mais présenter le cadreur, on m'avait dit, bah, tu vas voir, le petit gérant va t'accueillir, parce que c'est des petites entreprises. Donc, c'est comme un supermarché, il y a un gérant qui était là, et le type, je lui dis, bon, bah voilà, on va vous filmer peut-être dans les caves, pour pas qu'on reconnaisse l'endroit, avec, bon, les armes et le produit, etc. Le mec me regarde étonné, limite comme un débile, et me dit, bah non, ça nous sert à rien, gars. Viens, mets tes caméras. Regarde, on t'a fait faire une fresque par les meilleurs graffeurs de Marseille, qui indique le point de vente, le drive, il y a des petites flèches, et les menus, etc. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que sur les réseaux sociaux, ces garçons, c'est notamment Snap, là, voilà, bon, maintenant ils ont un peu disparu, mais faisaient de la pub de manière hallucinante. C'est-à-dire,
Ils font de la pub, pas pour leur image, pour recruter, j'imagine.
Non, ils font de la pub pour les clients.
Donc, et pour les clients.
Ah oui, pour les clients. Donc ils publient des petits films. Il y avait même des films faits au drone où vous suivez montrer en vidéo l'endroit du point de deal avec un drone qui vous conduit jusqu'au bâtiment, etc. Non, mais des trucs surréalistes. C'est là que c'est dans ce cadre-là de marketing excessif qu'ils ont aussi imprimé des petites pochettes pour mettre le produit, où vous avez les horaires d'ouverture, on est les meilleurs. Enfin, bon, voilà. Donc, on est passé dans un truc complètement différent de ce qui existait il y a une dizaine d'années, où pour toucher, comme on dit, chez les clients, il fallait quand même un peu. Voilà. Aujourd'hui, non, c'est assez ouvert. Donc, les types avaient plutôt intérêt. Moi, quand j'ai filmé ces gens, c'était dans le cadre d'un documentaire qui s'appelait Génération Kalash. Bon, voilà. Derrière, moi, j'ai pas Snap et tout, je suis trop vieux, mais j'avais des copains qui l'avaient. Ils me disaient, Jérôme, il y a plein de mecs, le point de deal de Félix Pia, le point de deal de machin, qui appellent, qui te cherchent parce qu'ils voudraient que tu viennes les tourner. Non, mais c'est sur la liste. J'y suis allé, j'aurais dit, bah, écoutez, je suis pas. C'est pas rendez-vous en terrain inconnu, pour reprendre ce qu'on appelle ça un terrain, les trucs, mais ça aurait pu être ça, c'était la déclinaison. J'ai dit, je vais pas multiplier les reportages sur les réseaux avec le chouf, le machin, etc. C'est pas mon terrain, puis je vais arrêter de vous faire de la pub, surtout, puisque c'est ça le but. Mais voilà, donc on a complètement changé de philosophie chez ces gens. Ouais.
On a vu le mot « mexicanisation » apparaître dans la bouche des politiques et dans les articles de presse à propos du trafic et des morts qui y sont liés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un nouveau paradigme, ça aussi?
Oui, alors effectivement, il y a cette violence débridée, et puis on a vu un cas, il n'y en a eu qu'un, heureusement, où les gens ont été, on les a retrouvés en petits morceaux, découpés à la mexicaine, dans un espèce de rituel macabre qui était censé impressionner les autres. Donc, on a parlé de ça parce qu'on voyait une surenchère s'installer comme ça, voilà, dans le morbide. Et puis l'idée, c'est de terrifier le concurrent. C'était ça leur truc de Mexica. Après, on est quand même loin de la situation mexicaine, hein, où on est à plusieurs dizaines de milliers de morts en 15 ans. Donc voilà, mais effectivement, l'image était sans doute un peu forte. C'est même quand on parle aussi de cartel, on se rapprochait du vocabulaire qui concerne les groupes sud-américains,
oui, etc. Cali et compagnie.
Bon, voilà, bon, on n'en est quand même pas là. Heureusement, je vous rassure. Ça, on est tout de même pas avec des petits Pablo Escobar dans Marseille, non.
Et autre mot qui est apparu, hein, dans le débat public, l'ubérisation du crime.
Alors ça, oui, ça en revanche, c'est un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'on voit ça se multiplier un peu partout. On le voit même dans les objackings là, de célébrités, enfin ce qu'on appelait les saucissonnages dans le temps, les types qui sonnent chez vous puis qui vous braquent, où les types sont recrutés aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça que ça veut dire, l'ubérisation. Et effectivement, à Marseille, ça c'est de cette époque de la DZ, de Yoda, etc., qu'on a vu ça se développer. Bon, alors parce que, comme vous l'avez dit, les trois types qu'on suppose être aujourd'hui un peu les têtes pensantes de cette DZ. Alors cette DZ, bon, on pourra en reparler, mais c'est pas aussi structuré qu'on l'imagine. Hein, heureusement pour nous, encore une fois.
Oui.
Ils ont, depuis la prison, recruté leurs fameux shooters, enfin donc les petits tireurs et tout. Oui. Et ces garçons, eh ben, on les trouve effectivement sur des boucles, mais c'est de la chair à canon. C'est-à-dire que c'est des gamins à qui on dit qu'ils foutent leur vie en l'air parce qu'ils vont prendre tous 30 ans. Hein, on le voit bien. C'est pour ça qu'il y a un truc un peu paradoxal là-dedans. C'est qu'on parle d'une organisation criminelle, superstructurée, etc. Mais en fait,
c'est pas tout à fait vrai, quoi.
Non, et puis ils font que des conneries. Alors, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas hyper pro. C'est-à-dire, quand ils essaient, on parle de racket. Alors, ils ont racketté les épiceries marseillaises. Mais ils arrivaient, ils disaient au mec, tu nous donnes 10 000 euros par mois. Mais le type, il en gagne 3 000, lui, par mois. Donc, il va pas vouloir. Enfin, vous voyez, tout est un peu comme ça. Alors, ils brûlaient le commerce. Ils essayent. Et en fait, on voit les vagues d'arrestations derrière. C'est-à-dire, leurs histoires de racket, 25 types arrêtés derrière. L'histoire de SCH, malheureusement, et de son collaborateur abattu, 25 arrestations derrière. Donc, on n'est pas dans un truc très pérenne et très solide et très structuré. C'est de la chair à canon qu'on recrute. Alors aujourd'hui, en plus, les médias leur ont fait beaucoup de pubs. Alors nous, on va continuer. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, ils écoutent moins France Inter dans les quartiers nord. Dommage pour vous, mais c'est pas vraiment la première radio du coin, heureusement. Mais il y a un phénomène de pub. Donc ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont contactés par le mec de Dijon, le petit dealer de Dijon, le petit réseau de Limoges, etc., etc. Ils disent venez nous en aide parce qu'il paraît que vous avez les shooters et les machins. On recrute un type gamin, on lui dit va chercher une guitare, comme on dit, c'est-à-dire une Kalachnikov en langage des quartiers nord. Et puis tu vas aller me shooter les mecs, ouais. Et en contrepartie, tu deviendras le boss du terrain à Dijon. C'est des conneries. Les 9 fois sur 10, ils se font arrêter, ils trouvent rien, et puis ils vont finir avec 30 piges à tourner dans une cour de centrale. Voilà, en gros.
Amateur. Merci infiniment, Jérôme Bira.
Merci à vous, Fabrice.
Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la DZ Mafia à Marseille, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Cailleux.